Alors maintenant, voyons. Ça va. L'objection de conscience, c'est un acte personnel. Personnel, c'est, ça n'engage que vous. L'objection de conscience, ça n'engage que vous. Vous n'avez pas à vous occuper de l'objection de conscience de votre voisin. C'est un acte personnel. Votre conscience étant personnelle, elle concerne vous-même. L'acte d'objection de conscience est un acte personnel. D'abord, il s'agit de se confronter à la législation civile. Par exemple, donc d'épuiser les recours juridiques. Dans la loi Aubry, 94-95, il y a la clause de conscience est interdite pour les chefs de clinique. Alors, maintenant, si les socialistes passent, prochain gouvernement, ils ont envie de l'enlever pour les infirmiers, pour les médecins. Pourquoi? Où est-ce qu'on en est dans la question de l'avortement en France? Il faut savoir que le corps médical en France refuse de plus en plus de faire des avortements. Donc il y a une prise de conscience collective, culturelle, à l'intérieur du monde médical pour refuser. Et quelle va être la stratégie de certains pouvoirs publics? C'est de faire passer la possibilité d'avorter non plus par les médecins, mais maintenant par les sages-femmes et de plus en plus par les infirmiers. Donc il va y avoir un rapport de force sanglant au point de vue du rapport de force politique. Il faut le savoir, il faut l'assumer. C'est en conscience qu'il faut assumer et certains sont prêts à ce rapport de force. Voilà. Bon, dernièrement au Conseil européen, il y a une décision du Conseil qui voulait éliminer par une décision du Conseil européen, Cour des droits de l'homme, je crois que c'est ça, le droit à l'objection de conscience. Il y a les grandes associations françaises-allemandes qui revendiquent l'objection de conscience, ont fait du lobbying auprès des députés. Et en fait, contre un peu toute attente, le Conseil de l'Europe, et en fait le Conseil de l'Europe a réaffirmé le droit à l'objection de conscience comme un principe transversal à tout droit humain. Voilà. On ne peut pas éliminer le droit à l'objection de conscience. Ça appartient à l'identité de tout homme de pouvoir faire objection de conscience. Alors que les juridictions civiles qui régissent le droit à l'objection de conscience veulent éliminer ce droit. Donc il faut revenir au droit et voir s'il permet de faire objection de conscience. Donc de bien connaître le droit, de se confronter au droit. Ensuite, de se confronter à la vérité du bien de l'homme. Se confronter à la vérité du bien de l'homme. Voilà. Je vous ai évoqué. Ah ben oui, je me suis arrêté, tiens. Je vous ai évoqué une liste d'actes qui sont toujours mauvais. Et là, je vais la continuer. Vous voyez, comme quoi. Hop, on revient. Sur les mains. Donc, je vais continuer ma liste. Voilà, pour mettre en évidence ce qui est mauvais pour l'homme. C'est-à-dire ce qui va ouvrir le champ d'application de l'objection de conscience. Donc, tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, de génocide, la Libye, l'avortement, l'euthanasie, et même le suicide délibéré. Donc ça, c'est pour la vie. Tout ça, c'est des AIM, actes intrinsèquement mauvais. Toujours mauvais. Ça, c'est par rapport à la vie. Deuxièmement, par rapport à l'intégrité de la personne. Comme les mutilations. Vous voyez, une des questions aujourd'hui à laquelle on va être confronté, c'est les tatouages. Est-ce que c'est des mutilations? Il y en a qui ont les tatouages ici? Non, mais vous voyez des gens avec des tatouages partout. Hein. Sauf que, et les petits tatouages, les petites abeilles, les petites, le petit grain de beauté qu'on se rajoute. C'est mignon, mais bon. Mais sauf que c'est définitif. Et que pour les enlever, c'est très très difficile. Est-ce que c'est une mutilation? Bon. Donc, l'intégrité de la personne, comme les mutilations, les tortures physiques ou morales, les contraintes psychologiques, vous voyez, l'harcèlement psychologique, sexuel. Voilà. Ensuite, tout ce qui offense la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines. Oui. Collaborer à des conditions de vie sous-humaines, un tiers de l'humanité vit dans des bidonvilles. Un quart de l'humanité vit dans des conditions matérielles identiques qu'il y a 6000 ans. Ça nous réveille, hein. Voilà. Comme je vous l'ai dit, 20% de la planète a faim, 20% a soif. Et ce n'est pas les mêmes. Forcément. Donc ça s'atteint la, voyez, les conditions de vie sous-humaines. Les emprisonnements arbitraires. Bon. Les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes, des jeunes. Ne vous en faites pas, tout ça, ça marche toujours. Hein. De moins en moins en Suisse, c'est sûr. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Mais si on, maintenant qu'on a une conscience mondialisée, il n'y a pas de problème ailleurs. Hein. Ou encore les conditions de travail dégradantes. Oui, ça va jusque-là. Est-ce que vous, à Philanthropose, vous avez des conditions de travail dégradantes? Pour toute revendication, allez voir vos supérieurs, vos responsables. Donc les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé à la chaîne, dans les usines, à des cadences infernales. Moi, c'est m'est arrivé pour connaître. Faites l'expérience un jour, pour voir la condition du milieu ouvrier cadencé. Vous comprenez l'émergence des syndicats à la fin du 19e. Vous comprenez. C'est irrecevable, irrecevable. Donc, la réduction des travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre, responsable. Toutes ces pratiques et d'autres analogues, la liste n'est pas fermée, sont en vérité infâmes, tandis qu'elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s'y livrent, plus encore que ceux qui les subissent et insultent gravement le Créateur. Voilà. Donc, face à des situations qui correspondent là, c'est des situations qui doivent réveiller notre conscience et dire stop, ligne rouge. Ligne rouge. Il faut accepter qu'il y a l'impossibilité d'une protection juridique générale de l'objection de conscience. Ça, on peut rêver un jour qu'on permet tout n'importe quand, etc. Si on permettrait tout n'importe quand l'objection de conscience, l'objection de conscience, ça vous concerne vous. Si vous, en conscience, vous êtes persuadé que ça c'est mauvais, vraiment mauvais, ça vous engage vous. On ne peut pas parfaitement créer un statut général et parfaitement équilibré de l'objection de conscience. On peut l'étendre, mais on peut... En fait, c'est un acte personnel. Deuxièmement, c'est l'exercice certainement le plus approfondi de la vertu de prudence. Voilà. Ça ne sert à rien de rentrer dans un idéal, il faut savoir appliquer l'idéal de la vérité à la singularité d'un fait. Voilà. C'est dans cette situation-là que je refuse de collaborer. C'est définitif. Si vous voulez me virer, vous me virez. Ça suffit. Ne m'y reprenez pas. Ok, ok, ok. Bon. Donc, il faut éviter l'écueil et l'esquive. Voilà, la posture Ponce Pilate. Ouais, on se lave les mains, c'est pas mon problème, hein. Que le Christ soit crucifié, c'est pas mon problème. Vous les juifs, vous voulez? Ok. Mesures d'ordre public, on va éviter la révolte à Jérusalem. Moi, c'est pas mon problème. Pas hein, l'esquive. Éviter la posture. Oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Oui, oui, il faut se battre, c'est scandaleux, etc. Et vous, vous faites rien. La posture. Oui, oui, je vous soutiens, oui, vraiment. Oui, vous pouvez compter sur ma prière. Oui, allez-y, oui, oui, comptez sur ma prière. Oui, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez, la question pratique, vous voyez, moi je suis dans une communauté où on a été sensible à ça par rapport aux jeunes filles qui voulaient avorter. Ben, le problème, c'est que la jeune fille dit, ma famille me met dehors, j'ai pas d'argent, je ne sais pas où dormir, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, nous on a créé des centres où on accueillait ces jeunes filles-là. Et pendant 6 mois, elles étaient aidées jusqu'à ce qu'elles accouchent et après elles pouvaient rentrer dans leurs droits sociaux, etc. Mais voyez, ouais, en quoi on collabore aussi à aider les personnes. Donc éviter l'esquive, éviter la posture. Voilà. Il s'agit de prendre le risque de la sainteté. De la sainteté. Et la sainteté, c'est votre affaire à chacun, c'est votre affaire personnelle. Précisons l'objection de conscience. Voilà. D'abord, il faut en parler. On ne décide pas seul. On en parle. On décide seul, mais on en parle avant. On en parle, on en parle. Voilà, il faut objectiver la situation. Soumettre son jugement à l'évaluation d'autrui. Voilà. Deuxièmement, ne pas juger autrui. Ne pas juger. Voilà, c'est ce que dit le roi Baudouin dans sa lettre. Je n'ai pas à juger autrui. Moi, ma conscience, je suis invité à suivre ma conscience. Et je ne suis pas la conscience des autres. Je ne suis pas à la place des autres. Là, je suis en fidélité à moi-même, en raison de fidélité à ma conscience. Donc je n'ai pas à juger les autres. Troisièmement, accepter les situations de solution, de substitution désagréable. Perdre un emploi, c'est ce qu'il y a de plus commun. Vous opposer à un directeur qui est plein d'harcèlement, mais qui arrive à contourner les problèmes pénaux à ce sujet-là, insupportable. Accepter de protéger d'abord votre dignité humaine plutôt que de rentrer dans la compromis. Vous savez, il suffit d'une fois pour rentrer dans la compromission. Entre le compromis et la compromission, la limite est faible. Voilà. Et il suffit d'une fois de salir pour sentir sali pour toujours. En deux mots, il faut accepter de rentrer dans une logique positive du renoncement, mais un renoncement qui donne la vie. Et, voilà, pour la finale, ce sera la finale de notre réflexion commune, hein, accepter qu'il ne peut pas y avoir dans notre vie deux vies parallèles, entre la foi et la morale, entre ce que nous voulons vraiment vivre et ce que nous faisons réellement en pratique. Notre vie est appelée à être sainte, c'est-à-dire à être parfaitement unifié entre nos désirs les plus profonds, nos convictions et ce que nous faisons en pratique. Voilà. On va s'arrêter là.